et que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Un jour, le compositeur Morten Fellman dit au compositeur Karlheinz Stockhausen « Je ne mène pas les sons par le bout du nez ». Et Stockhausen lui répondait par un semblant de question « Pas même un petit peu ?» L'abandon de la maîtrise du son semble être la condition pour l'observer, mais aussi la direction prise par des compositeurs emblématiques de la musique expérimentale, à commencer par John Cage et Alvin Lucier, qui s'est fait comme une spécialité de concevoir des œuvres qui font réfléchir le son dans l'espace, qui laissent se produire ces résonances minimales, jusqu'à utiliser des oscillateurs et se faire une réputation de phénoménologue. C'est pour un numéro oscillé que Métaclassique est accueilli à la cassette pour entrer plus en détail dans l'œuvre d'Alvin Lucier avec le musicologue Mathieu Saladin, qui a fait paraître aux éditions MF un livre d'entretien avec Alvin Lucier, et le pianiste Nicolas Horvat, qui a été le commanditaire et le créateur de la dernière œuvre du compositeur. Pour reprendre la chronologie au début, voici un extrait de sa première œuvre expérimentale, Music for a Solo Performer, une œuvre de 1965 dans laquelle gong, timbales et grosses caisses vibrent sous l'impulsion de l'encéphalogramme qui capte les ondes alpha émises en direct par le cerveau du compositeur. Bonjour Mathieu Saladin.
Bonjour David.
Est-ce qu'on peut dire que la carrière expérimentale d'Alvin Lucier a commencé quasi du jour au lendemain, et on pourrait même le dater, ce serait le 5 mai 1965 quand Lucier invite John Cage au Rose Art Museum de l'université de Brandeis, et là Cage a une exigence en retour.
Oui, alors c'est une date qui est un basculement important dans le parcours d'Alvin Lucier. Après, je ne sais pas si c'est du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes qui précèdent ce concert. Mais oui, la requête de John Cage pour répondre à cette invitation d'Alvin Lucier pour jouer au Rose Art Museum à Brandeis, où enseignait Lucier à l'époque, c'était tout simplement que Alvin Lucier compose également une œuvre pour la soirée, ainsi que Christian Wolff.
Et cette œuvre a été donc celle que l'on vient d'entendre ?«
Music for Solo Performer, for Enormously Amplified Brainwaves ».
Dans le département de musique de l'université de Brandeis, ce n'était pas courant d'utiliser un amplificateur, il a fallu qu'il l'emprunte à un collègue ?
Oui, alors c'était pas courant de plusieurs manières, disons. C'était pas courant déjà parce que c'était quand même un département de musique très conservateur, disons, porté sur l'avant-garde, mais plutôt le sérialisme continental. Et tout ce qui relevait de la musique expérimentale, la tradition Cajun, post-Cajun, était un petit peu mis de côté. Donc d'ailleurs, pour organiser ce concert, il ne l'a pas fait avec ses collègues du département de musique, mais avec Sam Hunter, le conservateur du musée du campus. Et ensuite, oui, les amplificateurs qu'il va utiliser, disons, ce n'est pas les amplificateurs qu'il va emprunter à son collègue physicien Edmond Dewan, mais les électrodes, le dispositif d'électrodes, et ensuite il va emprunter une série d'amplificateurs domestiques avec tous ceux de ses amis qu'il va pouvoir trouver autour de Boston, et les mettre en série pour amplifier au maximum ces ondes cérébrales. Mais l'anecdote, en effet, à l'origine de la pièce, il croise dans les couloirs de l'université ce physicien, Andy Wayne, qui faisait des expériences pour la Air Force et sur les crises d'épilepsie des pilotes d'avions militaires. Et il se disait qu'il pouvait peut-être trouver un collègue artiste pour en faire une utilisation plutôt orientée esthétique. Personne ne souhaitait le faire et il a trouvé Alvin Lucier qui a bien voulu se prêter au jeu. Oui.
L'anecdote cristallise quand même le fait que lui était en train de faire de la musique plus ou moins néoclassique et qu'il avait besoin d'un déclic pour passer outre. C'est-à-dire qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette façon de faire de la musique, mais il avait une espèce de blocage à se dire « je suis un compositeur, j'ai des connaissances sur les fugues, les sonates, la structure et ça ne peut pas ne servir à rien toutes ces connaissances ». Et donc c'est d'une certaine façon ce qui l'empêchait d'avoir un rapport plus lié au lieu, aux sonorités, comme il va le développer quasi du jour au lendemain. C'est pour ça que je...
Oui. Alors, c'est pour ça que je remettais en cause un petit peu le jour au lendemain, parce qu'en fait, c'est le moment du basculement, mais tout ça a mûri quand même un certain nombre d'années, puisque entre 60 et 62, Alvin Lucier bénéficie d'une bourse Fulbright qu'il passe à Rome, qui était assez classique pour les compositeurs américains de cette époque-là, qui avaient fait leurs études dans des grandes universités américaines comme Harvard, Yale, etc., ou Princeton, d'aller finir leur cursus en Europe, sur les terres de la tradition qu'ils avaient étudiée pendant toute leur scolarité, pendant toutes leurs études. Mais c'est un voyage paradoxal que va faire... Alvin Lucier en Europe entre 60 et 62, puisque c'est pas du tout pour finalement affermir sa connaissance de l'avant-garde européenne qu'il y va. Disons, il y va pour ça, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y découvrir finalement la musique expérimentale nord-américaine, qui avait été complètement écartée durant tout son cursus. Donc il y a plusieurs anecdotes qui vont être des moments assez déterminants. À Venise, notamment, il va croiser une pièce de Merce Cunningham avec Karin Braun. Il va y avoir aussi son passage à Darmstadt, parce qu'au même moment, à Rome, il y a Frédéric Tresky qui va l'emmener à Darmstadt. Et puis là, il va découvrir X for Flint, interprété par David Tudor, notamment.
Dont on va parler dans un instant.
Voilà.
Ouais.
Et donc, c'est en fait, déjà, là, le verre est dans le fruit d'une certaine manière, puisqu'il se rend compte qu'en fait, il y a tout un pan de la création qu'il ne connaissait pas et qui va beaucoup l'intéresser. Et puis, quand il revient après aux États-Unis en 62, il prend ce poste de chef d'orchestre, de chef de chœur. Et il ne compose toujours pas. Disons, il y a quelques petites pièces qui datent de cette époque-là, un peu orientées fluxus. Et puis une pièce méconnue, mais qui est à mon sens très importante, peut-être même plus importante que Music for Solo Performer, qui est Elegy for Albert Anastasia, qui est une pièce qui date de 62 en gros. Et la grande découverte, finalement, c'est pas tant Cage. Cage, il va le pousser pour qu'il se mette enfin au travail en tant que compositeur et qu'il montre quelque chose au public. Mais la grande influence et la grande découverte d'Alvin Lucier à cette époque-là, c'est Morton Feldman. Avec notamment la conduction de Swallow of Saragan, une pièce pour chœur et orchestre.
Mais par exemple, quand il s'amuse avec à voir Cage donner comme exercice à Christian Wolff de faire une musique avec trois notes, c'est donc la dimension feldmanienne de Cage qui l'intéresse, c'est quelque chose comme ça?
Oui, c'est exactement ça. Avec un autre aspect qui n'est pas nécessairement présent dans le Cage de cette époque-là, on va le retrouver chez Cage. Sans doute la partie la période la plus feldmanienne de Cage, qui est plus tardive, qui va arriver dans les années 80 avec les Number Pieces. Mais ce qu'il découvre chez Morton Feldman, Alvin Lucier, c'est l'abandon de la structure. Pouvoir faire des pièces sans aucune structure.
Alors, il y a une autre personne importante pour lui, c'est David Tudor, c'est-à-dire le pianiste et compositeur, et qui est le créateur de cette pièce dont on parlait tout à l'heure, X for Flint de la Monte Young de 1960.
Oui, il va revenir à plusieurs moments dans sa carrière, David Tudor, pour l'encourager, etc. Quoi. Mais cette expérience-là va être déterminante, surtout dans, en tout cas, les comptes rendus qu'on peut avoir de ces rencontres d'Alvin Lucier avec Tudor, c'est principalement à travers les entretiens qu'il a pu donner. Donc voilà, c'est aussi une période filtrée par les souvenirs qu'il pouvait avoir de cette période-là, etc. Mais X for Flint, ce qui va être déterminant pour lui, c'est qu'il va voir le rejet en fait sur place. Il y a Boulez, Stockhausen, Adorno était là aussi pour ce concert, et tous vont monter sur leurs chaises, apeurés, etc., comme s'il y avait une souris dans la salle. Et lui va trouver l'expérience sonore complètement.
Agora Côte d'Azur. Thank you.
Bonjour Nicolas Horvat.
Bonjour David.
C'est vous que l'on entend au piano interpréter X for Henry Flint. C'est une version piano parce qu'au départ c'était pour quel instrument ?
Au départ c'était pour tout instrument et Lamont & Young l'avait faite avec une percussion. C'était lui-même qui taffait sur un fry pan, une énorme casserole, on pourrait dire. Et dans mon souvenir, je crois qu'il avait tapé plus de 800 fois, puisque le vrai titre de la pièce, en général, on l'appelle X or Any Numeral for Henry Flint. Et en fait, le nom de la pièce est déterminé par le nombre de percussions que l'on fera sur un instrument ou un objet sonore, enfin un corps sonore donné, un certain nombre de fois qui va être calculé au préalable.
C'est-à-dire que vous, quand vous l'avez enregistré pour le label Sub Rosa, vous avez déterminé comment le nombre de clusters que vous alliez faire ?
Alors, je ne les ai pas déterminés. Ce que j'avais souhaité faire, c'était d'aller au maximum de la durée d'un disque. C'était 72 minutes. Il y avait deux versions. La toute première qui malheureusement n'a pas pu être aboutie, que j'étais content finalement qu'elle ait avorté, puisque quand on l'a enregistrée une première fois à Paris, malheureusement les voisins en fait ont porté plainte. Ils ont contacté la police en disant qu'il y avait un groupe de punk qui était rentré dans l'église et qui défonçait le piano à coups de hache. Donc le premier enregistrement qui était beaucoup plus rapide, je faisais un cluster toutes les secondes et donc c'était pour une durée de 72 minutes.
Et comment la seconde en est arrivée à se ralentir ?
Tout simplement puisque je me suis rendu compte, parce que j'avais préparé la pièce à la maison, je l'avais déjà entendue, surtout on voit beaucoup de vidéos, il y a Ben qui l'a faite d'une façon assez régulière à Nice et j'avais cette vision un petit peu plus, je dirais presque, je dirais pas clownesque de l'œuvre, mais il y avait un côté un petit peu jusqu'au boutiste qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, au moment où je l'ai faite, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans le dispositif d'enregistrement qui est toujours différent du travail à la maison. Le travail à la maison, on fantasme un petit peu le phénomène sonore et le phénomène produit. Et une fois qu'on est soit en concert, soit en enregistrement, c'est un petit peu comme si on avait les oreilles qui s'ouvraient. Et d'avoir fait cette première version que je trouve décevante, qui a été justement interrompue par la police, puisqu'ils sont vraiment rentrés dans le studio et ils nous ont demandé d'arrêter. C'était radical. Enfin, ils ont vu qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas de hache et qu'il y avait des micros parce qu'on l'avait enregistré pour en quadriphonie. Parce que moi, je voulais vraiment travailler sur le phénomène sonore et sur la réverbération. Je m'étais rendu compte qu'avec une percussion toutes les secondes, comme le faisait Ben d'ailleurs, puisque à cette époque-là, on avait un petit peu échangé. Je voulais un petit peu voir comment un petit peu. C'est vrai que Ben a une. Il est plus dans le mouvement Fluxus, École de Nice, mouvement Fluxus, donc c'était plus un mouvement artistique. Et je me suis rendu compte qu'en faisant une percussion donc toutes les secondes, je passais à côté de quelque chose d'essentiel. Et je me suis rendu compte que c'était que le...
Et cette chose essentielle était justement la prise avec le lieu.
En fait, c'était pas la prise avec le lieu, c'est que en faisant une percussion toutes les secondes, on était concentré uniquement sur l'action percussive et non sur le rendu sonore. Ça laissait pas le temps à l'œuvre de se développer dans l'espace. Et c'est vrai que, le fait que l'enregistrement était interrompu, ça m'a permis d'un petit peu plus lire, d'approfondir, puisque du coup, on a un ressenti, on se dit qu'on fait peut-être fausse route à ce moment-là. On continue un petit peu à lire d'autres interviews de Lamont & Young, à repenser les choses. Et j'avais lu une interview où justement, Lamont & Young ne se revendiquait pas de Fluxus, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus zen dans son œuvre, et qu'on était dans... il n'y avait pas, je dirais pas, un côté de religiosité du phénomène sonore, mais que il y avait une sacralisation du mouvement en fait qui devait se dilater à travers l'œuvre.
Parce que ce que dit Nicolas Horvat là, Mathieu Saladin, fait quand même penser à Lussier, quand Lussier par exemple, pas encore expérimentateur, est chef de chœur et dirige Bach en allant chercher le tempo en fonction du lieu où il se trouve, en fonction de comment ça prend corps dans un espace.
Oui, c'est l'écoute de la propagation du son dans l'espace et le déploiement du son que tu évoques, c'est vraiment ça, c'est la couleur que va prendre le son et puis le temps qu'il va mettre à se faire,
Et la distance avec Fluxus, le fait que Ben en fasse que une performance, en quelque sorte, Lucier, dans les entretiens qu'il a avec vous, il semble assez ironique envers Fluxus quand il parle de la pièce Drip Music de Georges Brecht, qui consiste à faire couler de l'eau sur de l'eau. Il prétend l'entendre quand il est avec des étudiants et qu'il y a une fuite et qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent. Enfin, il l'acte pas tant que ça comme une expérience esthétique.
Bah si, il l'acte comme une expérience esthétique, mais qui ne refuse pas l'humour.
Alors que je pense que l'humour, il fait pas une priorité par ailleurs.
Ah non, par contre, dans son propre travail, non. Et c'est pour ça que, il va être proche de la mouvance Fluxus durant la première moitié des années 60. Nan June Paik va lui dire, suite à une partition graphique qui s'appelle Piano for Mother, qu'il peut devenir un compositeur Fluxus. Et Alvin Lucier va se mettre en retrait par rapport à ça, mais ce sont néanmoins des compositeurs, Ben Patterson notamment, George Brecht et d'autres, qu'il a beaucoup présenté dans ses cours à la Wesleyan University, pour lequel il avait une réelle affection, je pense.
À partir de cette expérience de 65 qu'on a décrite tout à l'heure, il s'est arrêté d'employer les instruments de musique, en quelque sorte, il les a repris qu'une vingtaine d'années plus tard avec Wilson.
Oui, il y a toute une période qu'on appelle de live electronic music, hein, qui court en gros de 65 à 82, avec le retour d'une écriture instrumentale à partir donc, de 82, qui est la date de Crossing, pour une pièce pour petit orchestre. L'abandon temporaire des instruments de musique est aussi une manière pour lui d'échapper finalement à tous les dogmes qu'amène l'écriture instrumentale, y compris dans les musiques expérimentales, pour aller chercher autre chose qui l'intéresse. C'est pas les sons que produisent les instruments, c'est pas une qualité de timbre, une virtuosité d'interprète. Ce qui l'intéresse, c'est le phénomène sonore.
Et le phénomène sonore, il va l'entendre notamment en termes de battements, par exemple quand il écrit pour l'ensemble Pamplemousse assez récemment, dans les années 2000. Il vous dit par exemple, si vous avez un violon montant d'un demi-ton face à une clarinette jouant une hauteur fixe par exemple, le battement accélère à mesure que l'écart entre les fréquences se creuse et ralentit s'il se réduit. Donc il va pas forcément s'intéresser beaucoup à la microtonalité parce que c'est déjà une thématique trop harmonique pour lui. Il va s'intéresser véritablement au phénomène acoustique au sens presque scientifique du terme.
Ouais. Le battement est un des phénomènes qu'il a beaucoup travaillé, qui apparaît dans son... Alors, la première pièce où apparaît le battement, ce serait Chambers, qui date de 1968, qui a connu plusieurs versions, dont une version installation, mais la toute première consistait tout simplement à utiliser avec... il était en résidence, en fait, comme artiste invité à la Giola à San Diego, où enseignait Pauline Oliveros, et il avait fait une performance avec des étudiants, où il avait déniché sur une boutique au bord de la plage des conques, des gros coquillages dont il avait coupé l'extrémité. Il en faisait comme des cornes. Et donc chaque étudiant devait se déployer jusqu'à ce qu'il n'entende plus au moins un des performeurs. Et durant cette interprétation, il observe que quand deux conques jouent à pratiquement un octave d'écart, se produit un phénomène de battement. Ensuite, il va complètement laisser tomber ce phénomène-là. On le retrouve au milieu des années 70 avec une pièce qui s'appelle Still and Moving Lines of Silence in Families of Hyperbolas, qui est une pièce au départ à mi-chemin entre l'interprétation et l'installation sonore. En tout cas, c'est une pièce qui implique une installation sonore au préalable pour pouvoir être performée, et qui va être reprise au début de sa période instrumentale, le retour de l'instrumentation dans les années 80 sous forme de soli pour différents instruments. Et donc là, ça va devenir, voilà, c'est peut-être le phénomène acoustique pour lequel il a le plus écrit, qui en fait l'intéresse. Donc le battement, qu'est-ce que c'est? Un battement, c'est tout simplement une modulation périodique, hein. Donc quand deux fréquences relativement proches sont émises simultanément, il y a un phénomène de modulation périodique qui opère et qui crée donc ce battement, une sorte de petit rythme qui apparaît et qui ralentit à mesure que les fréquences se rapprochent jusqu'au le point de bascule que serait l'unisson, où là, du coup, il n'y a plus de battement, et puis ensuite accélère à mesure que les fréquences s'éloignent. ce phénomène-là, on le retrouve chez d'autres compositeurs. Hein. Alvin Lucier cite souvent Xenakis, par exemple, qui avait pu l'utiliser, mais plutôt comme élément rythmique. Alors que chez Alvin Lucier, ce n'est pas du tout un motif. C'est une manière pour lui de donner à percevoir la spatialité du son.
Oui, c'est pas une matière. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, Nicolas Horvat, de cette phrase de Alvin Lucier ? J'ai appris à abandonner la performance pour que la performance ait lieu.
Tout simplement, ne pas chercher l'effet pour l'effet, mais aller dans le cœur même du son.
Le cœur même du son, c'est avant la musique.
Et si c'était la musique ?
Oui, parce que quand même, il n'a pas peur du mot musique. On peut écouter, par exemple, en 1977, Music on a Long Thin Wire. J'entends bien les battements dont vous parliez tout à l'heure, Mathieu Saladin. Il y a d'autres mots qui circulent. On parle aussi de balayage chez Åke Harder qui a cette formule.
Oui. Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail du balayage, peut-être on peut s'arrêter deux secondes sur le battement parce que c'est quand même assez important chez Lucier. J'évoquais à l'instant qu'il, pour lui, le battement intervenait comme stratégie pour donner à entendre la spatialité du son. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le son donc, qui se déploie, c'est une propagation, des ondes qui se propagent dans un espace de manière tridimensionnelle, qui vont ricocher, etc., sur les obstacles, les parois que l'onde va rencontrer. Et donc, le fait d'utiliser un battement permet en fait, de transformer la propagation du son, de créer non plus une propagation concentrique comme ça, disons centrifuge, mais de créer des ellipses dans la propagation des ondes par la confrontation de deux ondes. Et c'est là où une pièce comme Still and Moving Lines est assez importante puisque c'est l'installation sonore nécessaire avant que puisse avoir lieu l'interprétation consiste tout simplement à disposer un parterre d'ondes stationnaires. Et les musiciens, en venant jouer au plus proche, pratiquement à l'unisson de ces sondes stationnaires, vont créer des ellipses sur la propagation en hyperbole des ondes stationnaires. Et donc, cette transformation subite de la propagation fait prendre conscience, selon Lucier, aux auditeurs suffisamment attentifs, d'un phénomène spatial.
Mais d'un phénomène spatial de relatif enfermement, parce que vous lui faites gentiment remarquer que c'est pas possible en plein air, son truc.
C'est plus difficile en plein air. c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Mais bon, il y a eu des petites tentatives quand même de Lucier de faire des choses en plein air, plutôt à la fin de sa vie, des choses qui n'ont pas nécessairement abouti d'ailleurs. Mais c'est clair que c'est quelqu'un qui s'intéresse au phénomène acoustique, mais qui est dans un rapport à l'enfermement. Il a d'ailleurs même composé une pièce qui s'appelle Shelter, et donc qui joue précisément sur l'enfermement, sur le bunker, quoi.
C'est faire entendre effectivement la pièce dans laquelle on ne sort pas, que nous fait faire Lucier, Nicolas Horvat.
Mais c'est vrai qu'on parlait d'inspiration, et à travers ces battements, c'est finalement se demander qu'est-ce que la musique. Moi, je pensais en vous écoutant, Mathieu, c'est vrai qu'on est très proche aussi de Music 14 de la Montaigne, Composition 14 de la Montaigne, ou Dream Theater par exemple, où finalement, sur le fait d'un état stationnaire, c'est vraiment comme si on prenait le son avec un microscope et qu'on essayait de rentrer dans une presque, je dirais, une version subatomique de la note qui n'est plus la note, qui est complètement, je dirais pas décharnée, mais qu'on observe. Et finalement, l'observation devient la pièce musicale. Et donc, de la musique.
Mais alors, on pourrait dire que cette observation suppose une non-intervention sur laquelle il semble assez insistant. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle « In Memoriam John Higgins » de 1984, qui est pour clarinette, solo et oscillateur à ondes sinusoïdales. Et là, le compositeur Frédéric Zaski lui dit « Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ta main pour changer la vitesse ? Pourquoi pas la contrôler avec la main ?» Et lui était alors devenu, il lui était devenu complètement évident qu'il fallait surtout pas intervenir sur ce qui était en train de se passer.
Ouais, tout à fait. Alors, il y a une première version de la pièce où il intervient, justement.
Où il intervient sur l'oscillateur.
Ouais. Mais c'est quelque chose qui va abandonner, puisque si on se met à jouer avec l'oscillateur, on laisse plus le phénomène se déployer. Il y a un rapport à l'attente d'un déploiement, de quelque chose qui apparaît, très fragile, et qui nécessite de, pour l'interprète de se mettre en retrait.
Et puis il y a ce que disait Nicolas tout à l'heure, à savoir le refus de l'effet. Il en devient même très critique à l'égard de Kaya Sarriao en disant qu'elle finit une de ses pièces avec un gros coup à la grosse caisse, et il assimile ça à un effet de musique pop, et il parle même de manipulation du public.
Oui, bah ça c'est son point de vue. Il a des positions très tranchées. Il sait ce qu'il cherche. Hein, il savait ce qu'il cherchait. Et au regard de ce qu'il souhaite mettre en place, l'attitude du retrait est nécessaire. Hein, et ce retrait va même jusqu'à rendre l'interprète inaudible. Il en parle comme ça pour une interprétation qui était au Festival d'automne au milieu des années 70 de Still and Moving Lines encore. Par Johan La Barbara, et il lui demande en fait pour déterminer la dynamique de son chant, de la déterminer jusqu'au moment où elle ne s'entend pas. Donc il faut qu'elle puisse chanter sans qu'on l'entende chanter, puisque ce qui compte, c'est pas la beauté du chant de l'interprète ou sa qualité instrumentale, c'est le phénomène sonore. C'est ce vers quoi doit être dirigée l'attention. Donc l'interprète, quel que soit son instrument, se met relativement en retrait pour que puisse émerger ce phénomène.
Alors après, on peut projeter beaucoup de choses quant à la posture philosophique de ce retrait. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir en détail dessus tout à l'heure. Mais d'abord, le 1er octobre 2020, Nicolas Horvath, vous donnez la première mondiale à Strasbourg dans le cadre du Festival Musica de Music for Piano with a Slow Sweep Pure Wave Oscillators XL. Comment est-ce que s'est passée la commande de cette œuvre que vous lui passez ?
Alors, complètement par hasard. C'est assez étonnant, puisque j'avais un projet avec Stéphane O'Malley de Sun. C'est un concert qui ne s'est pas fait, qui ne se fera sans doute jamais, où je voulais justement associer Lustmord avec le travail de Stéphane et Alvin, et puis d'autres compositeurs, je pensais à Eastman, où on était vraiment sur l'expérimentalisme américain, une grande nuit comme ça de musique. Et bon, il y a eu le Covid, etc. Et donc, c'est Stéphane qui m'a mis en relation avec Alvin. Et donc, on avait pas mal échangé. Il voulait nous faire une pièce comme ça pour moi, Stéphane et Oren, qui malheureusement n'aura jamais lieu, puisque voilà, Alvin ne fait plus partie de ce monde. Et donc, pendant les échanges, vu que moi, j'étais connu à cette époque-là, avant le Covid, pour les concerts au très, très long cours, je lui disais, écoutez, bien sûr, j'adore votre musique, mais c'est quand même vraiment dommage que vous fassiez des pièces aussi courtes. J'adore votre passion d'explorer le monde, et ça serait vraiment chouette si vous faisiez une longue pièce. Bon, je n'ai pas eu de nouvelles.
Parce qu'il s'était un peu enfermé dans le format 20 minutes, c'est-à-dire de musique contemporaine. Il vivait de cette économie-là, on peut dire.
Ouais. Et un beau jour, je crois que c'était, je ne sais pas, 6 mois, 8 mois après, je reçois un email de sa part en me disant « Oui, alors, et ma pièce, est-ce que tu la joues ?» Et moi, j'ai fait « Bah écoutez... ouais, j'adorerais la jouer, mais il faudrait que je la reçoive. » Et le lendemain, je reçois un zip avec la pièce à Partoche. Et voilà, j'ai contacté. Donc,
elle dure combien de temps alors ?
Une heure. Elle dure, je crois que c'est ça, à peu près 62 ou 63 minutes. J'ai plus le timing exact en tête. Et donc, à l'époque, donc, j'avais contacté plusieurs festivals. Ils étaient vraiment tous très intéressés par cette première. Il devait y avoir je crois qu'il devait y avoir 5 ou 6 concerts en France Et bon, après, malheureusement, il y a eu le Covid. Le Musica est resté très fidèle. Ils ont tenu à faire la première. Il y a eu donc un enregistrement qui a été fait donc pour mon label Grand Piano. Et malheureusement, on n'a eu aucun retour presse. Enfin, vraiment, ça a été un désert médiatique le plus total. On a eu un excellent retour du concert. Alvin avait beaucoup aimé l'enregistrement. Et puis voilà, malheureusement, j'aimerais pouvoir continuer à la redonner. Mais pour le moment, voilà, j'attends.
En voici un extrait.
Encore à côté sur...
Avant qu'on passe à un autre sujet, je voudrais peut-être m'arrêter deux secondes sur le rapport au temps, puisque là, c'était quelque chose de très intéressant que tu as dit. Puisqu'en effet, chez Lucier, si on regarde le corpus de ses œuvres, c'est principalement des pièces de 15-20 minutes. Alors peut-être que l'économie des festivals et des commandes...
C'est ça, il vous le dit beaucoup dans les entretiens. Il répond aux commandes, voilà, il se laisse solliciter.
Mais il n'y a pas que cet élément-là, parce qu'il y a quelques pièces quand même qui sont plus longues. La première de Music for Solo Performer, c'est 40 minutes. I'm Sitting in a Room.
On va en parler dans un instant,
on part aussi sur des temporalités proches, quoi. Et puis les installations sonores, qui sont une partie importante de son travail, sont sur des temporalités qui vont s'étendre comme ça, quoi. Mais pour lui, moi je l'avais interrogé sur cette durée de 15-20 minutes qui est très très présente, quoi, dominante même dans son travail. Pour lui, ça correspondait à une durée optimale d'attention qu'on pouvait solliciter chez l'auditeur, l'auditrice en concert.
C'était l'un des arguments de 433 en 1952 aussi. Nicolas, comment est écrit la partition? C'est-à-dire qu'il ne peut pas, puisque ça dépend du système de diffusion, l'a expliqué, anticiper où seront et quand seront les battements et leur rythme.
Ouais.
Où sont les notes que vous jouez?
On a donc là, il y a deux oscillations, une qui est montante et une qui est descendante. Oui. On les voit sur la partition. Et en même temps, vous avez des notes qui vont tomber. C'est à vous de jouer avec les attentes du possible battement. C'est-à-dire que plus vous allez... Enfin, pour cela, il faut vraiment connaître le déroulé, puisque vous avez les deux oscillations qui ne vont pas à la même vitesse.
Oui.
Et c'est à vous de bien, bien, bien connaître la partition et aussi de bien suivre à l'oreille pour savoir vers quelle note on commence à approcher, pour savoir quelles vont être
parce que
la note,
le piano accords. Est donc là pour plus ou moins acter certains moments de la hauteur produite par les oscillateurs.
En fait, il y a un jeu entre les deux. Parce qu'il y a aussi deux choses, c'est vrai. Il faut que je commence avec la première, c'est qu'on lève la pédale du piano. Et
il n'y a pas de résonance.
Non, on met une pédale totale.
Ah oui, au contraire.
Ouais, on la laisse tout le temps. Et donc, comme j'avais mis donc, l'enceinte sous le piano, et ça permettait déjà au piano de vibrer. C'est-à-dire que quelque chose qui est assez magique pour l'instrumentiste quand on est sensible à ce genre de choses, c'est que déjà, rien que si vous ne jouez pas du piano, si vous laissez faire le développement choisi par Alvin, vous allez avoir les touches, enfin tout le piano, tout le corps physique du piano sera en vibration.
Ouais.
Et ça, déjà, c'est assez magique en soi. Et c'est vraiment quelque chose que l'on sent physiquement. C'est-à-dire quand on joue un type de note ou un type d'agrégat sonore avant qu'arrive l'oscillation des sine waves,
mm-hmm.
vous allez, c'est assez étonnant puisque vous allez avoir le phénomène sonore donc, que vous enclenchez avec le piano. Vous entendez que petit à petit, il va être perturbé, il va se modifier. Mais c'est toujours des choses qui sont très 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 fragiles, c'est-à-dire qu'il faut vraiment.
Est-ce que ce que vous jouez au piano a un effet sur ce que produisent les oscillateurs? Non.
Non, c'est
non,
le contraire.
Non, ça reste indépendant. Oui, d'accord.
C'est l'oscillateur qui va influer le résultat sonore.
Ah oui, bien sûr.
Et après, par contre, si au contraire, si vous le faites après, l'effet va être beaucoup plus immédiat, c'est-à-dire que la modification ne va pas se faire dans le temps, mais au contraire va être assez rapide et plus. Si je dis pas de bêtises, je crois que plus on est proche et plus les battements vont être rapides.
Non, plus on est proche, plus les battements vont être lents, puisqu'on
D'accord.
se rapproche de l'unisson.
Okay. Ouais.
Et plus on s'éloigne, plus c'est rapide.
Mm.
Il dit quand on s'intéresse à l'acoustique, on n'a pas besoin de se soucier du langage musical. Vous êtes en train de l'illustrer, j'ai l'impression. Et il dit aussi, l'espace est un contenant pour le son.
Bah justement, comme l'expliquait Mathieu, c'est le phénomène sonore produit va dépendre de l'espace lui-même, de la façon
ouais.
dont le produit sonore va se réverbérer, va agir en fonction des différents matériaux. On est un petit peu comme dans le... C'est malheureusement pas une performance, mais le produit dépendra vraiment de l'acoustique.
Hmm. Alors, il y a une pièce archi emblématique de ça que l'on ne peut pas ne pas citer, qui est I'm Sitting in a Room, dont voici un extrait.
I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again. Until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Sitting in a room different from the one you are in.
Mathieu Saladin, combien de fois il va répéter l'opération et de quelle opération s'agit-il?
Alors, combien de fois, ça dépend en fait du lieu. Vu que je n'ai pas de casque, malheureusement, je n'arrive pas à déterminer de quelle version il s'agit.
Là, on est entre 2 et 3. Ah oui.
Mais ça dépend du lieu. Hein. Et, la toute première version qu'il va faire dans son salon, ça va être assez rapide. Quoi. Donc, c'est l'espace qui détermine le nombre d'itérations.
Parce que donc, l'opération, c'est d'enregistrer sa voix. Ce texte, I am sitting in a room, et puis de faire rejouer l'enregistrement par les haut-parleurs et d'enregistrer la sortie, donc un phénomène de re-re, enfin de re-re, et de recommencer jusqu'à ce que ce soit saturé, c'est ça ?
Alors, pas que ce soit saturé, mais jusqu'à ce que les fréquences de résonance de l'espace se révèlent elles-mêmes, hein, comme il le dit, et ce qui lui permet comme ça de travailler sur son bégaiement. À l'origine de cette pièce, on retrouve de nouveau ce physicien de Brandeis qui avait été important pour Music for Solo Performer, puisque en le croisant dans les couloirs de l'université...
Edmond Diwan.
Ouais. Il lui fait part d'expériences que mène à ce moment-là Omar Gopal Bose, quoi, l'acousticien qui est devenu une marque très célèbre d'enceinte, et qui fait un test pour tester la neutralité de ces haut-parleurs, qui consiste à renvoyer dans l'enceinte le signal émis par l'enceinte. Donc un principe de réinjection. Et lui, ça va l'intéresser, non pas en utilisant un signal pour faire un test acoustique, mais précisément en envoyant de la voix dans l'espace et comment l'espace va se révéler dans ce principe de recyclage. Puisqu'au fur et à mesure que l'enregistrement est diffusé, réenregistré, rediffusé, etc., les fréquences de la voix ne restent des fréquences de la voix, pardon, que les fréquences que la voix a en commun avec l'espace dans lequel est diffusée cette voix. Et ça, cette précision, elle est importante, puisqu'il y a souvent eu une incompréhension en fait, de cette pièce, qui est en effet très connue, c'est la pièce la plus connue d'Alvin Lucier, mais qui consistait à dire que l'espace prenait l'ascendance sur la voix. Alors qu'il ne s'agit pas du tout comme ça d'un face-à-face entre un espace résonnant et puis un individu, mais précisément plutôt l'apparition du spectre que l'espace et l'individu ont en commun.
Enfin, il laisse l'espace faire, en fait. Enfin...
Mais à travers sa voix.
Oui.
C'est-à-dire que si on avait pris une autre personne ou un autre instrument, etc., ce serait d'autres fréquences de résonance. Disons, les fréquences, il n'y a pas simplement une ou deux fréquences de résonance de l'espace, c'est un spectre. Et du coup, ce sont directement celles émises par, disons, qui correspondent au spectre de la voix de l'interprète.
En quoi est-ce que ça a des vertus thérapeutiques ?
Alors ça, c'est Alvin Lucier qui en parle de cette manière-là. C'est en partie une croyance pour sa part, mais qui s'inscrit dans, en réalité, disons, qui me semble assez intéressant pour comprendre son processus de création, hein, puisque cette pièce, elle n'est pas du tout isolée dans le corpus de ce compositeur. Elle s'inscrit dans une série de pièces pour voix qui va commencer au milieu des années 60 et qui, en gros, court... il va revenir après, mais qui court jusqu'au milieu des années 70, qui consiste à transformer la compréhension de la parole humaine dans un processus que moi j'analyse comme de désubjectivation, mais précisément un processus de désubjectivation pour rentrer en contact avec d'autres subjectivités, c'est-à-dire amener la voix dans un devenir autre qui va permettre de l'ouvrir, de l'ouvrir sur en tant que flux poreux. Hein. La voix chez Lucier, c'est pas du tout ce qui marque une identité singulière, hein. C'est plutôt ce qui ouvre sur des devenirs. Et ça, on va le trouver dans plein de pièces pour voix de cette époque-là. Si on pense à The Duke of York, par exemple, la voix d'Alvin Lucier se transforme en râle de baleine à la fin. Une autre pièce connue de la même époque, c'est North American Time Capsule, pièce de 67 qu'il a faite avec ses étudiants autour d'une expérimentation sur un vocodeur qu'on entend là à l'instant. Ouais. Qui là consiste à transformer les voix pour entrer en communication avec d'éventuels aliens.
Alors, vous, au jeu des intertitres dans vos entretiens publiés aux éditions MF, vous parlez carrément de retrait de l'anthropos. Mais est-ce que de se retirer de l'intention, du contrôle ou du volontarisme, ça suffit à se retirer carrément de l'anthropos ? C'est beaucoup, quand même.
Ouais, c'est beaucoup. Mais c'était pour signifier le mouvement à l'œuvre, disons. Il ne s'agit pas de refuser... l'anthropose, mais de le mettre en retrait, c'est-à-dire de ne plus lui accorder la première place, une position de domination dans le monde, tel que ça a pu apparaître dans la tradition occidentale, notamment.
Vous sollicitez les travaux d'Arnold Berland qui dit « La nature excède l'esprit humain, non pas seulement en raison des limites de nos connaissances actuelles, non pas seulement en raison du caractère essentiellement anthropomorphe de cette connaissance, qui nous empêche d'aller au-delà des limites et des caractéristiques de notre processus cognitif. » Ça laisse un peu entendre que Alvin Lucier allait chercher quand même un au-delà des perceptions humaines.
Je suis pas certain de ça. On pourrait sans doute avoir ce type d'analyse-là. Moi, je serais très prudent sur ça, une dimension religieuse qu'il pourrait y avoir dans la musique d'Alvin Lucier. Non, je le pense
parce
pas.
Il le dit dans un entretien avec Tenay quand même, qu'il y a un retrait de soi qui lui vient de son éducation catholique.
Oui. Alors ça, il en parle deux fois dans tous ses écrits. Donc, il l'évoque vraiment très peu de fois. Et il a été, avant d'aller à l'université...
Deux fois, c'est déjà un leitmotiv.
Mais non, mais c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'évoque dans le livre, hein, je le souligne. Mais ce n'est qu'une raison parmi d'autres. Hein, en effet, avant d'aller à l'université, il était dans un collège bénédictin. Il a été, choriste quand il était enfant, etc., enfant de chœur. Et bien sûr, ça participe, disons, il échappe pas à sa culture, hein. Ça c'est évident, comme tout le monde. Hein. Mais ce n'est qu'un élément, et je pense que ce serait réducteur d'y voir là quelque chose comme ça qui résumerait finalement son approche compositionnelle.
Et qui pourrait l'éclairer.
Oui, c'est un des éléments. Mais à mon avis, il y a d'autres éléments qui sont assez déterminants et qui vont dans le même sens. Donc, moi, je la désigne plutôt comme une conjonction d'une diversité de facteurs, l'influence de John Cage et de l'indétermination que John Cage pouvait évoquer sous la forme de l'égolesse hein, dans la posture du compositeur et de l'interprète, a été une influence déterminante, avec le point de rupture qui consiste à dire que Alvin Lucier n'est pas du tout un compositeur de l'indétermination. Oui. Il travaille sur des phénomènes acoustiques, donc des rapports de cause à effet, mais l'inattendu peut faire sa place, même quand il n'y a pas d'indéterminé. Hein. Donc ça, c'est un élément vis-à-vis duquel Lucier va tenter de s'émanciper assez rapidement, hein, l'influence de John Cage. Donc. Et c'est là où c'est bien un retrait simplement de l'anthropos et pas un refus de l'anthropos, c'est qu'il souscrit néanmoins à l'idéologie d'une supposée neutralité de la technologie, hein, par les instruments acoustiques qu'il va utiliser, comme les oscillateurs, etc., qui lui permettent là, de nouveau, de se mettre en retrait. Donc c'est plutôt la tradition de l'objectivité hein, dont l'histoire a pu être relatée par Lauren Dalton et Peter Galison, qui consiste à mettre le sujet en retrait toujours. Mais même vis-à-vis de cette tradition-là, scientifique, de l'objectivité, Lucier reste, fait toujours un pas de côté d'une certaine manière, puisque quand bien même ses pièces sont extrêmement précises, on retrouve dans ses archives énormément de documentation sur des expériences acoustiques, des traités scientifiques, etc. Il n'a jamais souhaité être expert et connaître comme un scientifique les phénomènes qu'il observait.
Oui, il lit Helmholtz, mais pour le loisir presque, enfin.
Bah, il y va, disons, c'est quelqu'un qui compose de manière assez empirique. Typiquement, la pièce que j'évoquais tout à l'heure, Still and Moving Lines, qui est une pièce donc, pour stationnaire et instrumentiste, mais aussi il y a une version pour danseur. Donc il y a un parterre d'ondes stationnaires qui est mis en place dans l'espace, il pourrait très bien utiliser un mètre et puis calculer la longueur d'onde qu'il lui faut pour produire l'onde stationnaire. Quoi. Non, il le fait à l'oreille, hein, patiemment, comme ça, il dispose.
Ça, c'est le côté phénoménologue. Il faut que ce soit ramené à une impression.
Ouais.
Nicolas Horvath, quand vous parliez de JC, vous parliez davantage de John Cage ou de Jésus-Christ ?
À quel moment ?
Je ne sais pas, dans vos échanges avec Alvin Lucien, est-ce que les thématiques que l'on vient d'aborder venaient ?
Non.
Non, vous parlez non, pas
on
de ses
origines. On a surtout parlé musique, comment faire sonner la pièce, et voilà.
Comment faire sonner la pièce ou comment faire sonner le monde ? Parce qu'il y a cette appellation de guide de la nature aussi qui viendrait justifier cette quête des valeurs intrinsèques du son. Est-ce que c'est quelque chose du monde qui voulait faire entendre ? Ou seulement juste la pièce dans laquelle on se trouvait ?
Un petit peu des deux. C'est aussi là ce pourquoi je parlais vraiment tout à l'heure des sens du son. Il n'y a finalement pas un abandon de la technique. C'est vrai qu'on ne parle pas de dodécaphonisme, on ne parle pas de fréquence, etc. On a quelque chose qui est extrêmement fragile, qui fonctionne très bien. Mais vraiment, c'est aussi pour ça, je pense, que les expériences à l'extérieur n'étaient pas possibles. C'est qu'on doit vraiment avoir une immense attention, surtout de la part du public, puisque l'instrumentiste, vu qu'il est dans l'action, il est obligé d'être extrêmement attentif pour pouvoir réussir à faire la pièce. Ça ne veut pas dire qu'on va la réussir, mais en attendant, pour donner le maximum de chance au phénomène sonore, on doit vraiment rester sur le qui-vive pendant la totalité de la pièce. Mais vraiment, pour le public, c'est quelque chose... Le résultat est tellement... frêle et tellement délicat que quand on avait fait la première, on avait fait beaucoup de tests pour savoir comment spatialiser, puisque la salle était très grande, c'était dans une cathédrale à Strasbourg. Il y avait, je pense qu'il y avait 300 ou 400 personnes. On avait fait beaucoup de tests, parce que comme on avait déjà l'onde sonore qui était projetée dans le piano, c'était savoir comment mettre les micros, comment disposer aussi les enceintes, puisque vu que le son allait tellement se propager du fait que la pièce était grande, c'est une cathédrale forcément, mais qui se prêtait vraiment au côté mystique de cette musique, qui du coup est vraiment atemporelle.
Et ça, pour vous, il y a quelque chose de mystique, parce qu'il dit aussi qu'il se sent plus alchimiste que scientifique.
Alchimique, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant Mathieu tout à l'heure. C'est vrai qu'on est sur la partition, on n'a pas un guide avec une précision absolue pour savoir comment mettre le piano, où mettre les ondes sonores, parce qu'il aurait pu dire voilà, on a deux ondes sonores, on a quand même on a deux sine waves, on a une gauche, une droite. Si on met la gauche ici, ça sonnera mieux. Si on met la droite là, on est libre. C'est à l'interprète de trouver ces solutions pour que la pièce puisse fonctionner. Alors qu'il pourrait simplement nous dire, comme par exemple, je pense à la Monte Young avec son Well-Tempered Piano, voilà, il faut un Bösendorfer royal, il faut qu'il y ait uniquement une couleur violette, et il faut que le piano soit accordé avec un tempérament bien précis. Là, on n'a absolument aucune... On n'a pas du tout ces éléments-là, et c'est un petit peu à nous, instrumentistes, de trouver le point de rupture qui permet au phénomène de se produire dans les conditions les plus optimales.
Mais alors, est-ce que précisément il s'agit de le contrôler ? Parce que quand il défend l'alchimie auprès de vous, Mathieu Salerne, il dit « Une des idées de l'alchimie est de répéter sans cesse quelque chose pour que quelque chose se produise ». Ça, c'est une expérience que vous faites régulièrement, Nicolas Horvath, quand vous donnez les 840 fois des vexations d'Eric Satie, vous répétez, vous répétez, vous répétez, sans savoir le moment où il va se produire quelque chose. Et il se produit quelque chose. D'autre que ce qu'on entend, je veux dire.
Pour les vexations, c'est vrai qu'on ne peut jamais savoir où l'on va aller. Et après aussi, quelle va être la démarche de l'interprète. Moi, personnellement, j'ai toujours essayé de les faire... En travaillant la pièce, je me suis dit que le plus intéressant, c'était d'essayer de faire 840 fois identique, ce qui est impossible. Mmh. Et justement, je trouvais que là, l'expérience devenait intéressante à partir du moment où l'auditeur courageux qui prend le temps de rester tout le temps de l'exécution, ce qui est assez rare, peut entendre l'érosion de l'interprétation. Et je trouvais que cette érosion était justement le phénomène intéressant dans les vexations, plutôt que le côté un petit peu grand guignolesque que l'on peut voir de temps en temps. Mais voilà, ça après, c'est ma vision des vexations. Mais voilà, pour le côté grand guignolesque, pour terminer avec les vexations, il est vrai qu'en général, Eric Satie, quand il voulait faire une blague, eh ben, il a publié. Et il en parlait beaucoup, alors que les vexations, il ne les a jamais publiées, on n'en trouve trace dans aucune lettre. Donc c'est que peut-être que l'expérience était vraiment intime et importante.
Est-ce que la preuve que Alvil Mussier n'est pas regardant du résultat ne tient pas dans une des critiques que fait David Toop, à savoir, à propos de North American Time Capsule dont on parlait tout à l'heure, qu'il trouve le concept formidable, mais le résultat affreux? À quoi vous faites réagir Alvil Mussier? Il a plus ou moins un avis, finalement?
Oui, je me souviens plus de son avis d'ailleurs.
Alors attendez, c'est page 115. Que répond-il? Je me souviens bien de votre question. Il dit oui, c'était même avant que je fasse I'm Sitting in a Room, je ne m'insurgeais pas pour défendre cette pièce. John Cage, je l'aimais beaucoup, c'est une idée totalement différente. Ah oui, il y a cette idée que, bon, les avis divergent. Voilà, c'est comme ça. Il laisse venir la divergence des avis, mais de la même façon qu'il laisse venir les commandes. Et je me suis demandé si ce laisser venir, il était théorique ou il était en fait peut-être un peu libéral. Il y a le côté, un sens du kairos qui se convertit en opportunisme. Quand on est voulu, on vient, on répond à la demande, c'est comme ça, quoi.
Ouais, j'ai essayé à plusieurs reprises de l'interroger sur ses positions politiques, son rapport à l'économie. Il est extrêmement fuyant, c'est un euphémisme. Il est, non, c'est pas du tout quelque chose... parce que bon, il a quand même dirigé le seul numéro de source, la revue de Larry Austin, pour lequel, disons, un numéro pour lequel Larry Austin avait confié la direction éditoriale à quelqu'un d'autre. Et il a choisi, donc c'est en 70, il choisit à ce moment-là de faire un numéro spécial sur la scène anglaise, qui était peut-être la scène la plus engagée des musiques expérimentales d'Europe à ce moment-là, quoi, notamment autour de Cornelius Cardew. Donc il va rencontrer toutes les personnes autour du Scratch Orchestra, Cardew, etc. Il est assez critique, en réalité, sur...
Sur la radicalité de ses
ouais,
compositeurs.
Ouais, ouais, complètement.
Pour terminer, vous le sondez sur ses enseignements. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, d'une pièce comme Incy de Terry Riley, pièce emblématique de la musique répétitive? Lui, il en parle d'une façon assez formelle.
Oui. Alors, son rapport à l'enseignement, c'était quelque chose qui était vraiment dans la découverte, en tout cas, le cours sur lequel il a plus parlé, qui est Musique 109. Dont le contenu a été d'ailleurs publié et traduit en français chez Aero Limit. Ce sont simplement des cours où il fait pas une histoire des musiques expérimentales telles qu'on pourrait les trouver dans certains manuels aujourd'hui, mais une histoire personnelle. Donc c'est toujours des pièces qu'il a pu rencontrer, qu'il a interprétées ou auxquelles il a dont il a pu assister aux premières, ce genre de choses, et puis des pièces de ses amis.
Merci beaucoup, Mathieu Saladin. Merci beaucoup, Nicolas Horvath. Merci aussi à La Cassette d'avoir accueilli l'enregistrement de ce métaclassique. Et pour terminer, eh bien voici une version de Incy pour 11 oscillateurs et 53 formes. On la doit à Jérôme Vassereau, Julien Sénéla et Soya.